Nous sommes en train de suivre ce que Dieu veut nous montrer dans une construction depuis toute une série de mois. Le Seigneur est en train de nous parler de l'unité entre nous, de l'unité entre les générations. Et je vous rappelle ce texte particulier que nous avons donné en introduction dimanche passé, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous êtes une race élue, vous êtes une génération choisie, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé à son espérance, bien sûr, qui vous a appelé, afin que vous puissiez annoncer ces vertus, vous qui êtes passé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes une génération choisie. Nous avons dit que le Seigneur est le Dieu des générations. Dieu est le Dieu des générations. Et Dieu nous parle toujours dans les termes de génération. Il a insister pour qu'en Israël, il y ait cette succession de générations. Par exemple, il va dire dans Exode, en se révélant à Moïse, au chapitre 3, verset 15, il va dire ceci. Dieu dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Le Seigneur est le même hier et aujourd'hui éternellement, nous l'avons souvent dit. Et il désire également que chaque génération qui vient, il y a eu des générations avant nous, il y a des générations après nous, que chaque génération le connaisse. Et la Bible dit également que chaque génération doit le connaître et que c'est grave et c'est un vrai problème. C'est un véritable obstacle spirituel lorsqu'une génération ne connaît pas Dieu. Il est dit dans le livre des Juges, par exemple, que, chapitre 2, verset 10, « Après Josué, qui a été celui qui a conduit Israël dans la terre promise, après lui, alors que tout le monde apparemment s'est reposé sur lui, lui a fait confiance et a vu que ça marchait avec lui, il est dit que toute cette génération a été recueillie auprès des pères et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. » Voyez-vous, il suffit de peu de choses pour qu'il y ait rupture spirituelle entre une génération et une autre. Il suffit d'un peu d'inattention, un peu de laisser-aller, un peu de négligence et un peu d'abandon de foi pour que la génération qui suit ne se rappelle plus de ce que Dieu a fait. Souvenez-vous dans le psaume 78, où il est dit que d'abord, ce que nous devons instruire à la jeune génération, avant tout, nous devons parler de ce que Dieu a fait dans notre propre vie, avant d'enseigner ce que nous savons. Les instructions, nous les avons, nous qui sommes un peu plus âgés. Mais c'est notre expérience de vie qui doit d'abord être le premier témoignage qui touche la génération, afin que, lorsqu'elle nous regarde, qu'elle puisse observer et voir que ce que nous disons et ce que nous pratiquons est vraiment la même chose. Nous avons donc une tâche importante afin qu'il n'y ait pas de gap, qu'il n'y ait pas de cloison, qu'il n'y ait pas d'abîme entre la génération qui vit avec l'Évangile et la génération suivante qui, elle, s'en éloigne. C'est un message très important. C'est un message très important car le Seigneur veut toucher, veut renouveler, veut régénérer chaque génération, les jeunes et les aînés. Mais sur chaque génération, il y a un enjeu spirituel, mes amis. Et lorsqu'une génération se prépare pour vivre un temps puissant avec le Saint-Esprit, une génération qui va vivre un réveil spirituel de grande envergure, il y a toujours une attaque puissante. Avez-vous remarqué cela? Que l'ennemi essaie d'empêcher, parce qu'il sait, il se doute que la génération qui va se lever, qui sera en feu pour l'Évangile, et qui va transmettre le réveil, qui va propager l'évangile et l'évangélisation, bien sûr, il va attaquer de plein fouet ces projets, mais aussi ces gens et cette génération. Est-il étonnant dès lors que la génération de Moïse et la génération de Jésus, les générations qui ont vu voir un leader, un libérateur se lever, cette génération a été attaquée dans le but de la détruire entièrement. Nous connaissons le projet de Pharaon qui voulait éliminer tous les garçons qui naissaient du temps de Moïse. Et nous connaissons le projet de Hérode qui voulait éradiquer tous les garçons, tous les enfants de la génération de Jésus. Ainsi, Le projet de Dieu, c'est saisir une génération pour lui confier ce message, afin qu'elle transmette le flambeau comme un relais, comme une course de relais à la génération suivante et que l'évangile puisse se propager. Mais lorsqu'il sait que quelque chose de fort va se passer, et frères et sœurs, nous vivons dans les temps où quelque chose de fort va encore se passer en Suisse et en Europe, alléluia. Quelque chose de puissant va encore bouger avant les temps de la fin et l'ennemi va s'opposer. Nous devons le savoir, nous devons en prendre garde, mais nous ne voulons pas nous laisser impressionner par lui. Nous ne voulons pas être une génération qui ne connaît plus l'Éternel et qui ne se souvient plus de ce qu'il a fait, mais nous voulons être une génération qui connaît l'Éternel cœur à cœur, qui vit pour lui, qui vibre pour lui, qui marche pour lui obéit pleinement. Ce n'est pas facile, la transmission. Ce n'est pas si simple. C'est pour ça que dans le psaume 71, nous l'avons également rappelé, le psalmiste va dire « Seigneur, ne m'abandonne pas. Jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, Seigneur, même dans ma blanche vieillesse. » Peut-être qu'il se doutait que dans sa blanche vieillesse, ses enfants allaient dire « Oui, mais on t'a déjà entendu, grand-père. On sait, tu nous as déjà raconté 4 fois. Ne raconte pas toujours les mêmes choses. » Et il dira dans sa blanche vieillesse, Seigneur, afin que j'annonce encore ta force à la génération à venir, ta puissance à la génération future. Mes amis, ne nous lassons pas de raconter ce que Dieu fait et surtout vivons ces choses devant et avec la génération qui nous suit. Mais il y a des promesses qui nous sont données, même si ce n'est pas facile. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Et je me réjouis de vous voir ce matin, jeunes et moins jeunes, toutes les générations, se réjouir ensemble dans la même présence, dans le même esprit, dans la même louange, capables de chanter les mêmes chants. Même si nous sommes de cultures différentes, nous faisons l'effort d'entrer dans la même adoration, dans le même esprit. Ce n'est pas la culture qui va nous séparer, c'est l'esprit qui va nous unir, c'est l'onction qui va nous unir. C'est la grâce qui nous unit, c'est les promesses qui nous unissent. Même si tant de choses peuvent nous désunir, cela est évident, mais le Seigneur dit aussi, je fais grâce, je fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération pour ceux qui m'aiment. Et encore une promesse, nous l'avons également rappelé à la fin du dernier culte, que c'est lui qui va ramener le cœur des enfants vers les pères et le cœur des pères vers les enfants. Car la transmission d'une génération à l'autre n'a jamais été simple, n'a jamais été un pari gagné. Mais le Seigneur dit, je suis avec vous, je vais faire ce que vous ne pouvez pas faire. Et certains prient depuis longtemps parce qu'il y a une séparation de cœur et d'esprit entre les générations dans vos familles. Il y a quelque chose qui ne passe pas, qui n'est pas accepté, qui n'est pas reçu. Et je sais de quoi je parle. Et le Seigneur connaît aussi ça. Il a récupéré vos larmes et vos prières. Et il ramènera le cœur des enfants vers les parents et le cœur des parents vers les enfants. Quelque chose de surnaturel va se passer. Nous annonçons un évangile surnaturel, mes amis. Ce n'est pas une dogmatique ou une théorie de morale que nous annonçons. Des principes, nous annonçons un évangile surnaturel et le Saint-Esprit va se mêler de cela pour faire réussir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Faites-lui confiance. Faisons-lui confiance et encourageons-nous dans ce sens-là. Ce n'est pas que dans l'Église que nous cherchons à connecter les générations, mais la société aussi s'attelle continuellement à construire des ponts et trouver des idées, des projets pour que les générations puissent se rencontrer et rester en contact pour éviter que dans nos villes, chacun vive d'une manière cloisonnée. Eh bien, il y a toujours, et je suis étonné de voir le nombre de projets qui existent pour que les jeunes et les moins jeunes puissent rester connectés. Même si vous vous sentez seul, sachez que dans la ville de Genève, il y a bien des projets qui existent pour que vous ne soyez pas seul. Il faut juste le savoir, il faut juste s'informer un peu. Ceux qui se sentent seuls, parfois, ne sont pas au courant ou bien n'ont pas fait d'efforts pour se renseigner, mais on peut effectivement recevoir le secours de gens plus jeunes pour ne pas que les aînés restent tout seuls. Alors, je ne vais pas entrer en détail sur tout ce qu'il y a. Il faut s'informer Et l'Église est là aussi pour vous aider, bien sûr. Ce que la Bible nous demande en tant qu'Église, c'est qu'on puisse non seulement se connecter en génération, mais s'aimer entre générations. Et lorsque nous lisons, par exemple, les personnes qui vivaient en tant que père et fils, nous sentons cet amour, par exemple, entre Élisée et Élie. On lit que Élisée va dire « mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Il avait dans Élie un père, une vraie figure paternelle, une figure puissante, comparée à une armée carrément, tellement qu'il était rempli de la ferveur et de la force de Dieu. Mais c'était son père, c'était affectueux. On voit aussi dans Paul et Timothée, Timothée, mon fils légitime, mon enfant, c'est cette affection qui passait. On voit également dans Josué et Moïse que Josué, à la mort de Moïse, il est tellement désemparé qu'au lieu de dire « heureusement qu'il est bien parti maintenant, j'ai enfin le champ libre pour faire ce que je veux », mais non, au contraire, il va dire « qu'est-ce que je vais faire sans Moïse ? Comment je vais m'en sortir devant ce grand travail ?» Et Dieu doit l'encourager. Donc nous sentons ce lien affectueux entre les générations. Alors, si tu veux bien projeter cette image de la flèche. Alors, cette flèche va nous symboliser quelque chose ce matin, car elle va représenter le lien entre les générations. Juste vous dire que actuellement, on mentionne pour le temps d'aujourd'hui, pour les gens qui sont encore en vie, on mentionne entre 4 et 5 générations différentes. Alors je vous les donne très rapidement et je n'ai pas fait une étude très très large là-dessus, ce n'est pas le but de ce matin. Il y a d'abord les boosters, B-O-O-S-T-E-R. Ce sont ceux qui sont nés avant-guerre et c'est la génération qui a dû vivre, d'abord survivre après la guerre et reconstruire les choses, qui a dû s'atteler à un travail. Ils sont des gens du devoir, des gens disciplinés, des gens qui ont réalisé pas mal de choses, qui ont construit des familles, etc. Ensuite vient la génération qui sont nés après-guerre, jusqu'aux années 65 à 70. C'est les boomers, B-O-O-M-E-R. C'est ceux qui font partie du baby boom qu'il y a eu après-guerre. Donc il y a une grande quantité d'enfants qui sont nés à ce moment-là. Eh bien, cette génération a suivi la ligne de leurs parents, mais est arrivé également un moment de fléchissement, qu'on a appelé ça la génération des hippies, mai 68, etc., où il y a eu cette remise en question. On ne voulait pas simplement copier les valeurs des parents telles quelles et on voulait réagir contre. Ça n'a pas été le cas de tous, mais dans les villes, etc., certains se souviennent des manifestations qui ont eu lieu à cette époque-là, où on dit en fait, on ne veut pas simplement s'occuper de notre famille, de la société, reconstruire le pays. On veut s'occuper de nous. On veut profiter un peu. On a beaucoup de possibilités. C'est eux qui vont aussi découvrir beaucoup de choses, mais aussi avoir un peu le recul par rapport aux valeurs parentales. Après, suit la génération X, ceux qui sont nés en 65-70 jusqu'aux années 85 et un peu plus. Cette génération, elle a beaucoup plus de peine à trouver un sens à sa vie. Elle a tout, elle n'a pas besoin de chercher beaucoup, elle a tout à disposition, au niveau communication également. Ça devient la génération individualiste particulièrement, qui se cherche, qui passe aussi par des crises morales et qui elle aussi remet en question les valeurs des parents qui ne les acceptent pas telles quelles. Puis vient la génération après, qui est la génération Y, il paraît qu'il y a même génération Z maintenant, mais bon, je n'ai pas cherché plus loin. La génération Y, c'est ceux qui sont nés en 85 jusqu'à l'an 2000 à peu près, qui, elle, alors, a la particularité de se répartir en tribus, où tout est fractionné, on se rassemble par affinité, par intérêt. Et chacun a son microcosme de vie, comme cela. Et le mot d'ordre, c'est avoir du fun, s'amuser et faire des expériences. Et dans ces fameux tribus, j'ai regardé un petit peu, vous trouvez à vraiment de tout. Il y a la tribu des skaters, des hipsters, des ravers, des gamers, des cyber, des bikers, des rastas, des gothiques, des Jesus freaks, des babacool, des hardeux, des barbies, etc., etc. Alors voilà, on ne va pas entrer dans ces tribus, mais ça existe. Alors, il y a une différence dans toutes ces générations qui doivent vivre ensemble et qui, comme vous le savez, en 30 ans, vous avez vu tellement de choses changer, être différents. Et par exemple, ce qui est évident pour un aîné, l'engagement est une évidence pour les aînés, les valeurs, la constance, la fidélité. Maintenant, on n'est pas fidèle juste parce que c'est la fidélité qui a une valeur. On veut voir si la relation avec un autre me rapporte quelque chose. Si ça profite, je veux bien m'engager. Avant, on ne réfléchissait pas comme ça. On s'engageait parce qu'on est fidèle, parce que c'est une valeur de base dans laquelle on avance, parce que ça a toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, certaines relations dans certaines générations sont comprises différemment. Par exemple, la valeur du service, qui est une évidence pour certaines générations, peut-être des boosters ou des boomers, eh bien, est remplacée par, pas avant tout le service, mais avant tout le bien-être. Et aujourd'hui, on se bat beaucoup aussi avec un évangile du wellness, l'évangile du bien-être. Il faut que tu te sentes bien dans l'église, il faut que tu trouves ton compte, il faut que tu sois bien. C'est la valeur suprême. Est-ce que c'est la valeur de l'évangile? Est-ce que c'est la génération avant nous qui avait raison? Est-ce que c'est la génération d'aujourd'hui qui cherche ça, qui a raison? Voilà, ce sont des choses qui sont en opposition, qui posent des conflits, qui posent des problèmes. Les habitudes étaient tenues dans la durée autrefois. Maintenant, il faut toujours du neuf, toujours du neuf, toujours du neuf, toujours autre chose. Il faut changer ses affaires, ses portables, etc. Il faut que ça tourne, il faut que ça change. La loyauté. On était loyal face à une église, on restait dans une église toute sa vie avant. Aujourd'hui, on est loyal face à sa tribu avant tout. On est loyal et on peut changer quand on veut finalement. Une dénomination d'église était quelque chose d'important autrefois, mais pas du tout pour la génération X ou Y. La dénomination d'église, quand vous demandez aux jeunes est-ce que vous êtes heureux d'appartenir à l'église évangélique de Réveil avec toute son histoire ? C'est quoi cette histoire? Ça signifie quoi l'église de Réveil? Quel que soit le nom, ça nous est peu importe. Il n'y a plus cette attraction et cet attachement historique, forcément, sans même parler de la musique ou la communication qui est complètement différente. Revenons à la parole de Dieu. Nous lisons dans Acte 2, verset 17. Acte 2, verset 17. Et nous allons voir comment la Bible considère cela, et je reviens à cette flèche dans quelques instants. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça veut dire, je répandrai mon esprit sur toutes les générations en même temps. Écoutez, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Cela veut dire que Dieu voit toutes les générations, les boosters, les boomers, les X, les Y, les Z, tout ça ensemble, et Dieu les voit comme trois parties que j'ai représentées par cette flèche. Il y a ses fils et ses filles, la jeune génération, il y a les jeunes gens qui auront des visions, et les vieillards auxquels j'appartiendrai bientôt. Les vieillards, attention, les vieux en Afrique, c'est un terme honorifique là-bas, c'est un terme d'honneur. Ici, les vieux, c'est, il faut dire l'âge d'or, ou bien il faut dire la troisième génération, ou bien il faut dire autre chose pour ne pas blesser ou vieillir trop vite, mais c'est un terme que Dieu considère. Et ces trois générations qui reçoivent ensemble l'héritage de Dieu, le Saint-Esprit, qui reçoivent chacune une onction spéciale. Alléluia. L'onction n'est pas réservée à une génération, et ce n'est pas réservé à ceux qui ont été longtemps dans l'Église et qui sont restés fidèles. Elle est aussi réservée pour ceux qui sont là depuis un certain temps et qui ne s'y retrouvent pas toujours. Elle est aussi réservée pour ceux qui sont complètement différents de nous, que Dieu aime de la même manière. Dieu aime chaque génération de la même manière. Vous êtes une génération choisie afin d'annoncer les vertus que vous avez entendues, apprises et que vous vivez à la génération suivante. Nous sommes une génération choisie. Personne n'a besoin de se comparer. Mais ensemble, comme cette flèche va représenter ces ces trois générations. Les fils et les filles sont la pointe de la flèche. Je vais expliquer pourquoi. Les jeunes gens sont le centre, sont le corps de la flèche, la hampe de la flèche. Et puis les plumes, c'est vous, mes chers aînés. Ce n'est pas parce que vous êtes légers, mais vous avez un rôle à jouer que je vais expliquer dans, tout de suite d'ailleurs. Donc des générations spirituelles. Des générations spirituelles qui doivent vivre quelque chose avec Dieu, qui sont remplies du Saint-Esprit, qui doivent transmettre quelque chose. Commençons par, justement, les plumes. Les plumes. Les vieux qui reçoivent des songes. Quelle est la force de la génération des boosters et des boomers? Quelle est la force de cette génération avant-guerre et juste après-guerre? Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, voilà, vous avez aujourd'hui 60 ans et plus. Vous avez l'expérience de la vie, c'est comme une valeur ça, non? L'expérience. Vous avez l'équilibre, vous avez gardé le cap, vous avez gardé la direction, vous avez le recul à beaucoup de choses. Lorsqu'on vient vous dire, ah, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais vous êtes capable de dire, mais t'inquiète pas, j'ai déjà vécu ça. On a déjà passé par là. C'est vous qui êtes capable de patience, de confiance, d'écoute. Et il y a une chose que vous avez besoin, que nous avons besoin d'apprendre tous, mais spécialement les plumes, je pense, c'est l'encouragement. Ce n'est pas dire, nous on a toujours fait comme ça, et bouge-toi de là parce qu'on fait comme on a toujours fait. C'est de pouvoir laisser, et c'est difficile, laisser la place, reculer, même si j'ai l'expérience et je sais comment il faut faire, je laisse la place au suivant, à la génération suivante, qui elle a reçu l'onction, ne l'oubliez pas. Vos fils et vos filles ont reçu l'onction. Prophétique pour être la pointe, pour avoir l'impact. Mais c'est difficile de reculer, de quitter quelque chose. Et c'est le propre de l'aîné, c'est de devoir lâcher prise. Est-ce que c'est facile pour quelqu'un? Je ne vois pas de main qui se lève. C'est reculer pour laisser la place, alors que je sais comment il faut faire, mais l'autre doit apprendre lui-même. Mais l'autre doit avoir sa place. Et le problème, c'est souvent quand l'aîné ne laisse pas sa place et que l'autre n'arrive pas à entrer dans sa destinée, n'arrive pas à entrer dans ce qu'il y a à faire. Alors, ils font d'autres chemins. Les jeunes, vous ne les arrêterez pas. La flèche, la pointe, vous ne l'arrêterez pas. Ils vont faire autrement. Ils vont faire un détour par vous. Ils vont faire autre chose. Ils vont aller ailleurs. Alors, nous pleurons parce que nos jeunes partent parfois. Mais est-ce que nous leur avons laissé la place? C'est une question. C'est une question. Donc les plumes, finalement, qu'est-ce que ça sert à quoi? C'est que quand la flèche part, eh bien, elle donne la stabilité à la flèche. Elle trace le vent. Elle a l'équilibre, la stabilité pour que la flèche aille le plus loin possible. Les aînés, vous avez un grand travail à faire. La prière, l'écoute, la stabilité, votre expérience, vous garantissez la direction de tout cela. Je parle d'une église intergénérationnelle. Nous ne sommes pas une église de jeunesse, nous sommes une église interculturelle et intergénérationnelle, et c'est une force, et nous sommes très contents de cela. Maintenant, si vous considérez le corps de la flèche, les jeunes, c'est peut-être ceux qui ont entre 30 et 60 ans, on va dire comme ça. Oh, ben, je suis content de m'appeler encore jeune. Hein? 60 ans, c'est jeune encore aujourd'hui. Vous avez, dit la parole de Dieu, des visions. Vous avez des visions, vous n'êtes pas en train de vous éteindre, et je voudrais faire appel ce matin à ceux qui ont entre 30 et 60 ans et qui sont déjà éteints, et j'en rencontre trop. Ils sont déjà éteints. Ils n'ont plus cette onction de la vision qui doit être sur eux, que le Seigneur a dit, je répands mon esprit pour que tu aies une vision, que tu saches pourquoi tu vis et vers quoi tu vas. Il y a des personnes ici qui n'ont plus de vision, de rêve. Je ne parle pas d'un rêve n'importe quoi, mais d'un rêve qui est né de l'Esprit Saint, qui est né de la parole, qui est né de l'Esprit et qui vous donne de tracer la route avec persévérance. Vous avez besoin de retrouver cette vision. Vous avez déjà de l'expérience, une certaine expérience, le discernement. Et surtout, ce qui caractérise le poids de la flèche, parce que c'est ça qui fait le poids de la flèche, c'est les moyens que vous avez. Les moyens que vous avez pour faire l'œuvre de Dieu. Avancez, vous êtes doué, capable de porter une charge. Vous avez la vision globale, la structure, vous savez organiser, coordonner, vous savez investir. Et c'est ça qui donne la force à la flèche. Les plumes donnent la direction de la flèche. Les 30-60, les jeunes gens, donnent la force, le poids, la structure aussi, la vision globale. Et puis, les jeunes sont les générations, on va dire X, Y, Z, peut-être, je ne sais pas. Cette génération, la parole ne donne pas d'âge, elle donne juste l'indication que vous avez l'onction pour prophétiser. Vous appelez à la vie ce qui n'est pas encore là. Vous entrez dans des choses nouvelles, dans la foi. Bien sûr, les plumes ont la foi, les jeunes gens ont la foi, mais vous avez l'impact. Vous êtes avant-gardiste, pointu, parfois un peu fou, inconscient, il faut le dire. Capable de risquer, de foncer, frapper fort. Il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait des initiatives nouvelles. C'est ça qui donne l'impact à la flèche. Mes amis, imaginez Dieu qui prend cette flèche dans son arc et qui va la tirer vers son but. La flèche, tout ensemble, va atteindre son but. Ensemble, nous sommes dans la main de Dieu, les plumes, les jeunes et tous les autres. Chaque génération a sa place, connectée ensemble par la force d'une flèche dans la main de Dieu qui va être tirée, dans le royaume de l'adversaire qui va donner un impact et qui va faire une différence. Ce n'est qu'une image, ce n'est rien d'autre que cela. Tout dans la main de Dieu, de manière complémentaire, va être dirigé par l'Esprit de Dieu pour atteindre le but. Chaque génération a son potentiel. Mes amis, chaque génération a son temps. Chaque génération a son temps. Moi, j'ai mon temps. Mon temps commençait quelque part, mais va aussi se finir quelque part. Votre temps, pareil, il est là. Il faut aujourd'hui, et j'ai le cœur de vous le dire, il faut racheter le temps. Je me dis, mais ce matin, je me suis dit, mais c'est déjà dimanche. C'est encore dimanche. J'ai l'impression que je suis tout le temps en train de mettre ma cravate, tout le temps. Et puis c'est dimanche. Les semaines ont passé, je n'ai pas vu la semaine passer. Et le temps passe. Rachetons le temps pour être dans le centre de la volonté du Seigneur. Dans la paix. Pas besoin de courir après le temps tout le temps, même si c'est malheureusement le cas. Mais soyons dans le temps de Dieu, dans la paix. Mais aussi rachetons le temps. Rachetons le temps. Chaque génération... Et je reviens à cet amour qui doit régner dans les générations. Chaque génération doit offrir quelque chose à la suivante. Elle ne doit pas garder son héritage jalousement et mourir avec, partir dans la tombe. Il faut lâcher son héritage au suivant. Il faut libérer son héritage et toutes ses valeurs au suivant. Il faut enseigner les jeunes et la parole de Dieu est toute pleine de conseils à ce sujet. Nous devons... offrir et bénir la génération suivante. Et j'espère que vous le faites dans votre prière. Dimanche passé, j'avais tellement sur le cœur de parler de ce que Jacob a vécu. En ramenant ses deux petits-fils et en les bénissant d'abord avant les siens. Pourquoi ? Je vous le rappelle. Parce que c'était eux qui étaient bien plus en danger que tous les autres. Leur maman était égyptienne, leur papa était hébreu. Et... Jacob, alors qu'il est vieux, il est en train de mourir, il discerne. Il sait très bien qu'ils ont beaucoup plus de chances de rester en Égypte et de basculer du côté Égypte que du côté de la foi dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et il va les bénir et il va dire, je les adopte comme mes propres fils, parce qu'eux aussi, il faut qu'ils remontent à Canaan. Il ne faut pas qu'ils restent en Égypte. Donc il va prophétiquement les ramener avec lui dans le pays de Canaan, dans le pays de la promesse. C'est de cette manière que j'aimerais que nos plumes, vous puissiez bénir, prophétiquement bénir la génération qui vous suit et qui est cette flèche, cette pointe. C'est eux qui vont atteindre ce que nous ne pouvons pas atteindre. C'est eux qui vont avoir l'impact. Il faut que les générations se reconnaissent et s'honorent dans l'encouragement. Je voudrais maintenant lire un deuxième texte et pas aller trop long, mais juste vous donner après, je vais raconter une histoire. 1 Jean chapitre 2, 12, 13 et 14. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous ont été pardonnés à cause de son nom. Je vous ai écrit, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. La parole de Dieu revient de nouveau dans ces trois dimensions, dans ces trois générations, les petits-enfants, les jeunes et les pères. Et nous pouvons tous vivre en même temps, il y a une pensée complémentaire ici qui est donnée, vous pouvez tous vivre en tant qu'enfant, en tant que fils, pour devenir père ou mère. Chacun de nous, même le plus âgé dans la foi, est appelé à être un enfant de Dieu et à rester un enfant de Dieu. Vous êtes aussi fils et fille de Dieu, c'est-à-dire que vous avez une identité au travers du Père, parce que vous connaissez le Père. Et vous savez qui est le Père et pourquoi vous travaillez pour lui. Mais vous êtes appelé à devenir père et mère spirituelle pour les générations qui vous suivent. Des exemples. Ceci est très important. Que nous puissions, dans ce texte qui met en valeur les trouvailles de chaque génération. Les petits-enfants découvrent que leurs péchés sont pardonnés. Ils ont la joie du salut. Ils sont tout feu, tout flamme. Ils viennent de découvrir quelque chose. Et c'est eux, la pointe. Ils évangélisent facilement. Parce qu'ils sont jeunes convertis. Les jeunes gens sont déjà ceux qui sont la force de la flèche, ceux qui savent prendre position contre le péché, contre le malin. Ils savent prendre leur autorité qu'ils ont en tant que fils et filles de Dieu. Ils ont une autorité, ils sont en train de grandir dans cette autorité. Ils savent prendre ces victoires indispensables, alors que l'enfant... Il est très axé sur l'émotionnel. Il dira par exemple, oh, aujourd'hui je ne sens plus la présence de Dieu, Dieu est parti. Dieu n'est plus là, pourquoi il n'est plus là? Je ne ressens plus ce que je ressentais avant. Ça c'est typique à l'enfant. Mais le fils, il a déjà dépassé ce stade, il sait que même s'il ne ressent pas toujours, la génération X ou Y, elle est axée sur l'expérience, le ressenti. Mais le fils, lui, sait que même si je ne ressens pas, Dieu est fidèle parce que la parole le dit. Dieu est le même, il ne m'a pas quitté pour autant. Et puis les pères, il nous a dit qu'ils connaissent, ils connaissent le Seigneur. Ils connaissent celui qui est dès le commencement. Et cette connaissance intime de Dieu, c'est ça que les pères doivent transmettre. C'est ça qu'ils doivent transmettre. Père, plume, mes chères plumes, encore un mot pour vous. Ce qui est important, c'est d'amener votre expérience du passé dans le temps présent. Le faire avec discernement. Pas forcément, comme je l'ai déjà dit, maintenir les traditions coûte que coûte, mais apprendre encore à votre âge. Rassurer les jeunes. Apportez-leur votre encouragement et votre persévérance. Vous avez vu tant de changements dans la société et dans l'Église, dans la mission, dans l'évangélisation, dans le style de musique, etc. Et vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là. Merci. Merci à chacun. Écoutez, vous avez passé des tests sans vous décourager. Vous avez souffert sans devenir amer. Vous avez encaissé des coups et à chaque fois vous vous êtes relevé. Vous avez aimé, porté, travaillé quand même vous étiez tout seul. Vous avez connu le combat solitaire contre le péché sans devenir esclave. Vous avez gardé un cœur sensible alors que vous avez encaissé la dureté et les injustices. Vous avez accepté certaines situations qui ne changent pas sans vous plaindre. Et vous avez appris à être content dans l'état où vous êtes. Vous aviez l'occasion d'être au centre, mais vous avez donné la gloire à Dieu. Vous avez continué d'aimer alors que vous n'avez pas reçu l'appareil en retour. Vous continuez à louer Dieu sans encore avoir reçu tous les exaucements de prière. Votre vocation est noble et précieuse, devenez des pères et des mères spirituels pour nos jeunes. Je vais donner un petit témoignage de quelqu'un que je connais. C'est un pasteur suisse qui a écrit ceci. Dès l'âge de 14 ans, j'ai fait l'expérience du clivage des générations dans ma famille. Pourtant, tous étaient engagés dans la foi. J'étais jeune chrétien, dynamique, plein d'idées, et je me profilais pour devenir serviteur de Dieu. Mon père, avec qui j'avais alors un bon contact, deviendra à un moment donné mon observateur. Et je me sentais contrôlé sur ma vie. Le contact n'était pas mauvais en soi, dira-t-il, mais bientôt nous n'arrivions plus à nous rejoindre. Le fossé se creusa encore un peu plus lorsque les encouragements du père commençaient à se faire plus rares et que les paroles comme « C'est bien, mon fils, mais fais attention de ne pas tomber dans l'orgueil. » Quand ces remarques ont fini par m'exaspérer. Son père et les pères dans le ministère semblaient uniquement intéressés à mon service, à mes capacités, alors que mon attente était autre. J'avais besoin qu'on me fasse confiance, tout simplement. Pour finir, je me suis cassé. Je suis parti. En rupture avec la génération qui me précède, me voilà avec ma fougue de jeune engagé dans la foi. Je me démène, car pour moi, les vieux n'ont rien compris à la jeune génération. Et puis le temps a passé. Mais les résultats se sont fait attendre. Vient le jour où, amer, blessé et fatigué, je réalise que je ne peux plus continuer. Alors j'ai pris mon courage à deux mains, je suis retourné chez mon père pour m'expliquer, pour renouer le dialogue et ouvrir mon cœur. Et le miracle a eu lieu. Une vraie communion s'est retrouvée. L'harmonie a été retrouvée. Dorénavant, je ne veux plus me passer de la bénédiction de la génération qui me précède. Le prophète Malachie dit « Je vous enverrai Élie, le prophète. Avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable, je ramènerai le cœur des pères vers les enfants, le cœur des enfants vers leurs pères, avant que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Le pays est protégé si père et fils se retrouvent pour vivre ensemble et servir ensemble. Les jeunes ont besoin de voir Jésus dans la vie de leurs aînés et de reconnaître qu'ils ont reçu de Dieu et de recevoir leurs encouragements, leur confiance. Les pères ont besoin de faire l'effort du cheminement commun avec les jeunes, quittant leur rôle d'observateur et de contrôleur pour les encourager. Dieu dit à chaque génération, « Vous êtes une génération choisie. Vous avez reçu l'onction, vous avez tout reçu pour avancer, travailler ensemble, chacun à sa place, la pointe de la flèche, le corps de la flèche, les plumes de la flèche, ensemble dans la main de Dieu, on va atteindre le but et on va réussir à atteindre des milliers d'âmes pour l'Évangile au nom de Jésus. » Alléluia.